Bien, bonjour. Donc, effectivement, je m'appelle Thomas Paris et je suis, avant d'être à HEC, je suis chercheur au CNRS, dans un laboratoire d'HEC et chercheur associé au Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique. Alors, je voudrais commencer par remercier les organisateurs et tout particulièrement Laurent de m'avoir convié parce que, comme vous allez le voir très vite, ça n'était pas complètement évident. Deuxième chose, I would like to apologize to my English-speaking colleagues because I will make my presentation in French. But I must confess I'm quite excited that it may sound to you like Lacan or Derrida. But please, if it's too Derrida-like, just tell me because I will try to speak slowly. Alors, j'ai malheureusement raté ce qui s'est passé hier. J'ai compris que c'était extrêmement foisonnant. Vous avez présenté des choses très, très créatives. Vous avez montré vraiment toutes les potentialités du téléphone mobile, ce que j'ai vu aussi ce matin. Pourquoi ma présence ici n'est pas évidente? Parce que quand on donne un téléphone mobile, voilà ce que j'en fais. C'est-à-dire que je vais être un peu plus prosaïque. Mon objet de recherche, comme l'a rappelé Laurent depuis maintenant quelques années, c'est la création, la créativité. Avec un problème de fond, c'est que je ne sais pas constater la créativité. En tant que chercheur, je ne sais pas constater la créativité. Est-ce que quelque chose est créatif ou pas? Je ne sais pas dire ça. Et donc toute ma question, c'est plutôt d'essayer de comprendre en quoi les environnements, les structures, les organisations sont propices ou non à la créativité. Et donc ce qui m'intéresse dans le téléphone mobile, c'est de comprendre c'est quoi ce truc, et notamment c'est quoi ce truc vis-à-vis de la création. C'est-à-dire en quoi ça modifie ou non la manière dont un secteur, une industrie, un art sera ou non créatif. Alors, je vais essayer de préciser un petit peu tout ça parce que ça me semble important de vous rappeler. De vous rappeler quelques éléments de ce parcours de recherche. Donc, je m'intéresse à ce que j'appelle les structures de la création. Donc, je m'intéresse particulièrement à ce qu'on appelle les industries de la création, Creative Industries en anglais. Et ce qu'on appelle l'industrie de la création, je crois que ce que vous savez tous, hein, c'est le cinéma, la musique, l'audiovisuel, mais aussi la peinture, la gastronomie, le parfum, l'architecture, la publicité, le design. Toutes ces activités, pour reprendre la définition du département de la culture, des médias et du sport d'Angleterre, c'est toutes ces activités qui trouvent leur origine dans la créativité et le talent individuel et qui ont un potentiel pour créer de la richesse et des emplois à travers la génération et l'exploitation de la propriété intellectuelle. Donc voilà vraiment l'objet qui m'intéresse. Et ce que j'essaye de comprendre finalement, c'est cette espèce de... Alors il y a deux façons de présenter. D'un côté, c'est ce que moi j'appelle le miracle de la création. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans ce secteur, la création requiert des organisations, des institutions, et que organisations et institutions ont plutôt tendance à tuer la créativité. Et donc cette espèce d'équilibre entre d'un côté le monde organisé, institutionnalisé, et la créativité que j'essaye de comprendre. Et pour présenter les choses différemment, j'essaye de comprendre comment finalement la création prend place dans un ensemble d'environnements, et comment ces différents environnements influent sur ce que sera la création. Alors ces environnements, c'est quoi? C'est l'environnement le plus proche, le premier, c'est-à-dire le processus même de création, dans sa dimension collective, mais aussi l'environnement de l'organisation dans laquelle prend place la création. Le tournage d'un film, par exemple, c'est une organisation. Ou l'environnement industriel, c'est-à-dire un secteur, en quoi la manière dont fonctionne un secteur va favoriser ou pas une forme de créativité. Et pour étudier ça, j'ai une approche qui est comparative, hein, c'est-à-dire que tous les secteurs que j'ai évoqués, je les regarde dans leur ensemble. Alors, et comme l'a rappelé Laurent, et il me semble que c'est très important pour comprendre les problématiques qui se posent, avec un regard qui est transversal, donc à la fois transdisciplinaire, mais aussi du micro au macro. C'est-à-dire que je m'intéresse à la nature même du processus créatif. Enfin, c'est quoi un artiste qui crée? Jusque aux structures industrielles dans lesquelles il évolue. Et dernière chose importante, hein, c'est ce que j'ai dit en introduction, je ne sais pas constater la créativité, c'est-à-dire que je n'ai pas de définition de la créativité ou de la création qualitative a priori. C'est-à-dire que je regarde des choses extrêmement variées, sans faire de distinction entre la Scala de Milan et Plus belle la vie. Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des activités de création qui posent des problèmes en matière d'organisation, de gestion, d'économie, et j'essaie de comprendre ce que sont ces problèmes et comment on les résout. Donc là, je vous ai montré, j'ai présenté un certain nombre d'objets pour donner un petit peu de matière à ce que je fais, pour montrer le type de choses que j'étudie. Donc c'est des actes de création, c'est-à-dire c'est quoi le travail d'un parfumeur, par exemple. C'est l'organisation de processus de création dans des entreprises qui peuvent être le design de Renault ou Pixar. C'est des problématiques de transmission d'entreprises de création, parce que les problématiques de transmission sont très intéressantes parce qu'elles interrogent vraiment la distinction entre ce qui relève de l'individu, donc celui qu'on appelle le créateur, hein, Bernard Loiseau par exemple, et l'organisation. Et c'est-à-dire que ça pose vraiment la question de la place du créateur dans le processus de création par rapport à l'organisation. Et puis, des questions un peu plus larges sur les conditions, entre guillemets, institutionnelles de la création. Alors, quelques mots sur le positionnement théorique. Alors, là encore une fois, Laurent l'a gentiment rappelé, j'ai un positionnement théorique très ouvert, c'est-à-dire que, en gros, je me positionne très très clairement à la fois sur en ligne avec les sociologues de la culture, notamment Howard Baker, donc je pense que vous connaissez, hein, qui a mis en évidence deux choses. Un, que la culture et la création étaient des processus collectifs, donc qui faisaient appel à de la collaboration, de la coopération, et d'autre part, qui étaient des processus qui ne s'inscrivaient pas dans une feuille blanche. C'est-à-dire que dès lors qu'on est dans un processus créatif, on va devoir répondre, on va devoir se faire avec un certain nombre de conventions. Et puis peut-être l'autre ouvrage dans la ligne duquel je suis le plus, c'est le bouquin de Cage, Creative Industries. Lui qui est parti du fait que ces activités de création, dans quelques secteurs qu'elles interviennent, présentent un certain nombre de caractéristiques communes. C'est-à-dire qu'il y a une économie de la création. Voilà, puis ensuite quelques courants qui m'intéressent aussi aujourd'hui pour comprendre les choses un peu plus finement, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Alors, en gros, finalement, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi l'acte de création n'est pas, contrairement à ce qu'on entend souvent, le fait de se retrouver face à une feuille blanche. Le problème dans une activité de création est plutôt que la feuille n'est jamais suffisamment blanche. C'est-à-dire que les choses sont souvent très très structurées. Alors, je vais vous donner quelques résultats et après je reviendrai sur le téléphone mobile. Alors, premier résultat important que j'ai évoqué, c'est qu'il y a une véritable opposition structurelle entre l'activité même de création et l'organisation. Alors, je l'ai dit, mais je vais le développer un tout petit peu. D'abord, la notion de création suppose la remise en cause de normes, de conventions. C'est la logique même de la création que de remettre en cause les cadres établis. L'organisation, par nature, c'est la routinisation, c'est-à-dire qu'on reproduit l'existant. Si vous regardez l'organisation du monde du cinéma et la manière dont les cadres du cinéma travaillent, ils sont sans cesse à essayer, à partir de films nouveaux qu'on leur apporte, d'essayer d'interpréter ce que sont ces films par rapport à la lecture du passé. Et donc la logique même de l'organisation, c'est d'essayer de se projeter par rapport au passé. Or, la création, c'est plutôt une projection dans l'avenir. Deuxième élément, je ne vais pas tous les détailler, hein, derrière la notion de création, il y a l'idée d'un individu qui a quelque chose dans la tête, un concept, et qui par nature n'est pas forcément facile à partager. Quand vous avez l'idée d'un jeu vidéo par exemple, comment expliquer aux gens avec qui vous travaillez ce que sera ce jeu vidéo? La meilleure façon de le faire, c'est de le faire soi-même. Et donc il y a une difficulté intrinsèque là, c'est que la création implique dans beaucoup de secteurs une division du travail, mais qu'on ne sait pas forcément formaliser ce que va être ce travail. Et l'organisation, par nature aussi, est la division du travail. Donc on a cette opposition d'un côté entre une création individuelle et l'organisation qui repose sur une formalisation et une division du travail, des choses qu'on ne sait pas forcément faire dans la création. Bon, je ne vais pas y développer, il y a un certain nombre de caractéristiques comme ça qui montrent bien cette opposition vraiment structurelle entre ces deux notions. Deuxième élément important, c'est que quand on regarde la manière dont fonctionnent les processus de création, d'abord, c'est des processus qui sont collectifs, qui impliquent effectivement une division du travail. Et une division du travail qui va même jusque dans ce qu'on considère comme le travail de création lui-même. C'est pas, il y a d'un côté les créateurs, d'autre côté les gens qui font du marketing, c'est au sein même du processus de création. Si vous prenez les grands architectes aujourd'hui, comme quelqu'un comme Jean Nouvel ou Renzo Piano, ce sont des gens qui, un, sont extrêmement présents dans les processus de création, c'est-à-dire que les projets qui sortent de chez eux sont vraiment des projets qu'on peut rattacher à leur personnalité, à leur singularité, mais ils sont à la fois extrêmement présents dans des processus qui sont extrêmement divisés. Et on peut identifier plusieurs phases de ces divisions du travail. Hein. J'ai fait un schéma, comme tout schéma, qui est un peu caricatural, mais qui résume un certain nombre de choses, qui résume d'une part que les processus de création, tels que j'ai pu les observer, c'est des processus extrêmement itératifs, donc entre l'univers conceptuel, c'est-à-dire ce que quelqu'un a dans la tête, et puis l'univers réel de la mise en forme des choses. Quand vous regardez la manière dont fonctionne Pixar, il y a à peu près une dizaine d'étapes intermédiaires entre le projet initial, tel qu'un réalisateur le conçoit, et puis le film quand il sera abouti. Et chez Pixar, on va même jusqu'à réaliser le film entièrement en 2D, c'est-à-dire à la main, avant de le faire par ordinateur. Et ces différentes étapes, qui sont des mises en forme intermédiaires, sont une manière de scander ce processus et d'avoir un processus extrêmement itératif. D'un côté, entre le monde des idées et le monde des formes, de l'autre côté, entre un individu. Chez Pixar, c'est le réalisateur qui est le responsable du projet, et puis ses équipes, puisqu'il y a un enjeu aussi de construction collective de la vision de ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est le deuxième résultat important, c'est que vraiment, il y a des processus de création qui impliquent une division du travail, qui impliquent une articulation assez fine entre cet individu qui a un rôle particulier et le collectif. Troisième point qui me semble extrêmement important, c'est que dans tous ces secteurs, dans toutes ces activités de création, on est sur une logique d'abondance. Abondance vraiment à tous les niveaux, c'est-à-dire abondance sur le marché. Alors, vous connaissez ça sur le marché des biens culturels, hein, une économie d'hyper-offre, mais abondance y compris au sein des processus. C'est-à-dire qu'en permanence, on produit beaucoup plus que ce qu'on utilisera. Alors, je reprends l'exemple de Pixar. Chez Pixar, enfin, sur l'exemple de Ratatouille par exemple, on a passé des heures à concevoir des personnages qui n'existent pas à l'écran, à dessiner des décors qu'on ne voit pas à l'écran et à imaginer des scènes qui au final ont été supprimées du montage. Et ça, cette logique de génération d'abondance est extrêmement présente dans tous les processus de création. Voilà, quelques résultats qui sont à mon avis assez importants et notamment assez importants pour comprendre la suite. Alors, l'économie de la création a un certain nombre de caractéristiques. C'est-à-dire que ce n'est pas une économie comme les autres, elle pose des problèmes spécifiques. Alors, l'économie de la culture pose des problèmes spécifiques, et je pense que les problèmes spécifiques de l'économie de la culture proviennent de cela. Moi, je propose un cadre conceptuel assez simple pour appréhender la complexité de ces économies. Alors, ce cadre conceptuel, vous verrez, c'est extrêmement simple, hein, consiste à dire que la création, ou la créativité, c'est la rencontre d'un désir avec un outil sur un marché. Bon, jusque-là, je n'ai pas dit grand-chose. Mais si on regarde chacun de ces termes, ça me semble assez intéressant. Alors, le premier terme, c'est la notion de désir. Et la notion de désir, qui peut paraître évidente, c'est l'idée que ce sont des secteurs dans lesquels une subjectivité s'exprime. C'est-à-dire que cette notion, ça peut être des processus extrêmement collectifs, comme j'ai montré, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une voix prépondérante. C'est-à-dire que c'est un point de vue individuel qui va s'exprimer. J'ai observé, analysé, étudié beaucoup de processus dans beaucoup de secteurs, je crois n'avoir vu qu'un contre-exemple. C'est-à-dire, à un moment donné, un collectif qui est arrivé à créer sans qu'une personne sorte du lot, sans qu'il y ait une voix prédominante. Et ça, je pense que c'est fondamental dans la compréhension de ce qu'est la création, c'est quelque chose vraiment à préserver. Deuxième élément, c'est l'outil. Alors là, j'ai repris une citation d'Orson Welles, hein, qui dit un écrivain a besoin d'un stylo, un peintre a besoin d'un pinceau, un cinéaste a besoin d'une armée. Et ça, je pense que la phrase d'Orson Welles est assez lourde de sens, parce que ce qu'il exprime là, c'est que les conditions de transformation du désir d'expression en expression vont varier en fonction de ce que sera l'outil qui sera mis à sa disposition. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'immédiateté du peintre entre le peintre et son pinceau qui lui permet d'exprimer très rapidement ce qu'il a envie d'exprimer. Quand un cinéaste veut s'exprimer, il est obligé de réunir un budget, de réunir des équipes, d'écrire un scénario pour convaincre un certain nombre de personnes, et on perd en partie cette immédiateté. En tout cas, avant le téléphone mobile. Alors, dans cet outil, ce qui est aussi important, c'est que cet outil est au service d'un désir d'expression, et dans l'expression, c'est pas uniquement pouvoir faire les choses, c'est aussi pouvoir les montrer. Alors, je pense que l'exemple des Touareg nous l'a montré, hein. Il y a un enjeu aussi que les choses soient visibles. Et l'outil, c'est non seulement l'outil de création, mais c'est aussi l'outil de mise à disposition, diffusion, distribution. C'est cette espèce, enfin, l'ensemble d'artefacts qui interviennent entre le désir et puis le public. Et par la notion de marché, c'est l'idée qu'on ne peut pas échapper au fait qu'on reste dans la création sur des environnements d'abondance et de sélectivité. C'est-à-dire que c'est une forme d'hyper-compétitivité, de concurrence presque schumpeterienne, c'est-à-dire en permanence des gens qui viennent remettre en cause les gens qui sont en place, fait partie intégrante de l'économie de la création. Et là aussi, ça me semble quelque chose d'important à appréhender, parce que ça doit être préservé. Alors, dans ces conditions, je vais me focaliser sur l'outil. Quand un nouvel outil apparaît, donc encore une fois, l'outil, hein, c'est tout ce qui intervient entre le créateur et le public. Quand un nouvel outil apparaît, il y a deux éléments qui sont modifiés. Le premier, c'est que la distance, ce que j'ai appelé la distance entre le monde conceptuel et le monde réel, c'est-à-dire entre le désir d'expression et la formalisation d'expression, va être modifiée. Et ce qu'on sent avec le téléphone mobile, c'est ça, c'est-à-dire que quand j'ai envie de faire un film avec un téléphone mobile, j'aurais peut-être plus besoin d'avoir une équipe considérable, j'aurais plus besoin de réunir un budget, d'écrire un scénario pour aller chercher des fonds, etc. Donc il y a une forme d'immédiateté, en tout cas cette distance est modifiée. Et deuxième élément, et ça c'est important aussi, quand on a en tête cette logique d'abondance qui fait partie vraiment de la dynamique de la créativité, c'est qu'on va, pour prendre un terme économique, abaisser les barrières à l'entrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe d'un outil complexe et coûteux à un outil simple, n'importe qui peut se saisir de l'outil. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile. Si j'ai un jeune adolescent qui a 14 ans qui a envie de faire du cinéma, il prend son téléphone portable et il fait du cinéma. C'est pas tout à fait la même chose qu'il y a 20 ans où il fallait qu'il aille suivre une école, les pellicules étaient extrêmement coûteuses, il fallait s'acheter une caméra, c'était extrêmement, extrêmement cher, donc il était obligé de rentrer dans des filières. Donc ça, c'est la première modification. La deuxième modification, c'est que ce nouvel outil, en l'occurrence le téléphone mobile, ouvre aussi un nouvel espace de diffusion. Parce que le téléphone mobile est un outil de création, mais aussi un outil de diffusion. Et qui dit nouvel espace de diffusion, dit remise à plat des normes. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez considérable. Les normes, c'est des normes esthétiques, des normes techniques. Aujourd'hui, vous voulez faire un film à la télévision, c'est 52 minutes, ou 26 minutes, ou 6 minutes, il y a des formats très, très stabilisés. Vous voulez faire quelque chose sur téléphone mobile, rien n'est stabilisé, tout est possible. C'est-à-dire que vous avez une capacité d'expression beaucoup plus ouverte. Et donc, ce qu'apporte ce nouvel outil, c'est une forme de dynamique disruptive, c'est-à-dire on remet en cause l'ensemble des normes et des cadres cognitifs qui étaient imposés. Deuxième élément, remise à plat des situations de rente et des hiérarchies. Vous voulez faire un film de cinéma, il faut que vous soyez cinéaste. Il faut que vous puissiez montrer ce que vous avez fait. On ne vous fera pas confiance sinon. Vous voulez faire un film avec un téléphone portable, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de hiérarchie établie, il n'y a pas de situation de rente. Et donc on est sur ce que j'appelle moi une terre vierge. C'est-à-dire on est vraiment sur un espace assez peu structuré, assez peu normé, assez peu institutionnalisé, assez peu hiérarchisé, dans lequel chacun peut s'exprimer. Alors j'ai pris des exemples qui me paraissent assez emblématiques. On loue aujourd'hui la créativité des séries américaines. Et la créativité des séries américaines, si on regarde leur origine, c'est à un moment donné un nouvel espace de diffusion qui s'ouvre, c'est HBO qui se lance sur le câble. Donc l'arrivée du câble qui fait qu'HBO arrive, nouvelle chaîne, nouveau mode de diffusion, nouveau rapport au consommateur, donc aucune norme esthétique, et donc HBO n'a pas cassé les normes, n'a pas cassé les codes, HBO a simplement est arrivé sur un espace vierge et donc a pu développer des nouveaux codes. Alors, la notion de créativité dans le téléphone mobile. Donc ce qu'on voit à partir de là, c'est d'une part qu'on a potentiellement un outil d'expression beaucoup plus immédiat pour les désirs. Désir d'expression. J'ai envie de m'exprimer, je prends un téléphone, je filme. Avec un univers très peu structuré et très peu hiérarchisé, donc pas de valeur établie, et ça c'est fondamental, et très peu normé. La question qui se pose, c'est, aujourd'hui on a cet espace assez peu structuré, évidemment tout ça va se structurer, et donc on est sur, il y a potentiellement une créativité, mais qui va évoluer. Et donc la question qui se pose, c'est l'avenir. Alors, j'ai introduit en disant que je ne savais pas constater la créativité. Depuis le début de ce colloque, il me semble que vous constatez la créativité dans l'univers du téléphone mobile. Et par créativité, qu'est-ce qu'on entend ? Moi, ce que j'ai vu, c'était une forme de foisonnement d'abondance. Beaucoup de gens font beaucoup de choses différentes. Donc, c'est effectivement, je pense, une première expression de la créativité. Ça part un peu dans tous les sens. Autre expression de la créativité. Là où on ne peut pas vraiment parler de créativité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de remise en cause des codes et des normes, de la mesure où il n'y a pas encore de codes et de normes dans le téléphone portable, dans la diffusion sur le téléphone portable. Donc aujourd'hui, on a une créativité qui relève plutôt de cette forme d'abondance de foisonnement. On peut faire le pari qu'assez rapidement, tout ça va se structurer, le système de valeurs va s'établir, et que des choses qui aujourd'hui sont considérées comme créatives ne le seront peut-être plus demain. Alors je vais être un tout petit peu iconoclaste et faire un crime de lèse-majesté, mais si un cinéaste tourne l'arrivée du train en gare de la Ciotat aujourd'hui, personne ne criera au génie. Personne ne criera au génie parce que c'est... Bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est quand même pas extraordinaire. Historiquement, c'est un film extraordinaire. Mais c'était simplement un des premiers films, une des premières expressions sur cet espace nouveau qui s'est ouvert de la salle du cinéma et de la caméra. Je pense qu'on en est à ce stade aujourd'hui dans le monde du téléphone mobile. Voilà, je vais en terminer là. Et si vous avez des questions, j'y répondrai autant que possible volontiers. Merci.